BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Karine Dany.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est 11h, c'est l'heure de repartir en salle des marchés avec Frédéric Crozier de chez Mirabeau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Karine.
Journée importante aujourd'hui avec la réunion de la BCE et des résultats d'entreprises, de nombreux d'ailleurs dans le CAC. C'est quoi un petit peu votre analyse à cette demi-matinée avec des marqueurs au rouge, hein. Les marchés attendent, sont dans l'expectative.
Exactement, on est dans l'attente effectivement de la BCE. Voilà, il n'y a pas trop d'attente, à vrai dire, sur le fait que la BCE va remonter de 0,75 points les taux d'intérêt. Donc c'est pas du tout la question aujourd'hui. C'est effectivement les publications de résultats. Alors c'est vrai qu'il y a à boire et à manger. Donc on a vu aux États-Unis, notamment dans l'univers de la technologie, ça pèse clairement. On a Google, Microsoft, Meta, c'est des chutes relativement importantes. Et sur le marché parisien. Très belle réaction sur Carrefour et quelque chose qu'on attendait, hein, c'était la publication de Total.
Oui, bien sûr. Alors, que nous dit justement les premiers signaux ce matin? Est-ce que c'est positif ou est-ce que vous sentez une certaine tension?
Alors, sur Total, sur la publication, c'est des chiffres vraiment très très solides, hein. On est plus finalement très très loin en termes de bénéfices de la barrière des 10 milliards, donc c'est au-dessus du consensus. En génération de free cash flow, c'est relativement robuste, donc c'est vrai que tous les voyants sont au vert. Je mettrai quand même un petit bémol dans l'enthousiasme sur ces résultats. Ça se fait effectivement sur une base de Brent à $100. On n'est plus qu'à 93 et sur un GNL qui a baissé depuis, hein, de quasiment 20 à 30%. Or, les résultats ont été tirés par ce qu'on appelle l'IGRP, c'est-à-dire l'activité gaz. Donc voilà, attention, hein, on a vu, ça se calme quand même sur les matières premières. Voilà, est-ce que le quatrième trimestre sera de même nature, qui est vraiment pour le coup, le troisième trimestre était exceptionnel, est-ce que le quatrième trimestre sera de même qualité? À ajouter également, hein, dans les annonces de Total, un dividende exceptionnel de 1 euro, ça c'est très intéressant pour les actionnaires, qui sera détaché le 6 décembre de cette année. Donc voilà, ça redonne aussi de l'intérêt supplémentaire pour cette société qui délivre pour le coup des rendements relativement importants.
Vous vouliez aussi nous parler de Schneider?
Oui, c'est alors les résultats sont bons, vraiment un T3 de très très bonne facture, une croissance organique de 12%, au niveau des marges également très très bien orientée, mais on voit bien une mauvaise réaction du titre. C'est plus sur les commentaires, les objectifs, hein, regarde les trois premiers trimestres. On a des objectifs 2022 qui sont confirmés, hein. Ça suppose une forme de ralentissement sur le quatrième trimestre, avec aussi des indicateurs de pression, notamment dans le résidentiel. On le sait, Schneider est une société exportatrice très présente dans le résidentiel en Europe, aux États-Unis, également en Chine, et on voit que sur cette partie-là, ça commence à un petit peu à bloquer sur le résidentiel en Europe et en Asie, plus spécifiquement en Chine. Autre fait aussi marquant, sur la partie data center, entre autres, on voit qu'il y a une forme de stockage, déstockage qui pèse également sur l'entreprise. Donc, c'est pas sur la qualité des résultats que le titre est en mauvaise posture aujourd'hui, c'est plus sur les guidance et quelques indications d'une forme de ralentissement, mais on s'en doutait un petit peu.
Merci Frédéric pour cette analyse. Frédéric Crozier chez Mirabeau. Et tout de suite, c'est l'info éco.
BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collo.
C'est l'événement du jour sur les marchés, la réunion de la BCE. Ce sera à suivre à partir de 14h sur BFM Business, émission spéciale avec nos invités à Paris et notre envoyé spécial à Francfort, Aude Kersulek. Vous êtes déjà sur place. Aude, on attend une nouvelle forte hausse de taux cet après-midi.
Oui, la même qu'en septembre dernier, 75 points de base. La BCE calque son action sur celle de la réserve fédérale américaine en suivant son rythme de hausse de taux au détriment de la croissance, ce qui commence à irriter certains gouvernements, à commencer par la France. On avait Emmanuel Macron il y a une dizaine de jours qui s'était exprimé et qui avait ciblé le fait que la BCE accuse de vouloir briser la demande. Il y a donc ce débat qui monte sur la coordination de la politique politique monétaire européenne et de la politique budgétaire des États, coordination que demande la BCE, qui préconise de cibler les aides budgétaires sur les plus touchés. C'est un point de vue qui devrait être répété cet après-midi, surtout au regard de la situation britannique le mois dernier, avec ce budget de baisse d'impôts qui devait être financé par de la dette et qui a été complètement balayé par les marchés financiers.
Merci beaucoup Aude. Aude Kersulek depuis Francfort a noté cette émission spéciale à partir de 14h sur BFM Business. En France, le nouveau dispositif destiné à protéger les entreprises de la hausse des prix de l'énergie sera détaillé à partir de 15h cet après-midi par Elisabeth Borne. Ce matin, Bruno Le Maire a annoncé sur BFM Business que le gouvernement mettait 10 milliards d'euros sur la table, avec pour les TPE une hausse limitée à 15% l'an prochain. Pour les PME, un nouveau mécanisme va être mis en place pour garantir un prix raisonnable. Et enfin, pour les plus grandes entreprises, un guichet d'aide va être ouvert et simplifié. Bruno Le Maire qui souhaite que Luc Rémont prenne ses fonctions chez EDF avec 2 semaines d'avance à la mi-novembre. EDF qui publie ce matin un chiffre d'affaires en hausse de 78% sur les 9 premiers mois de l'année, à plus de 100 milliards d'euros, porté par la forte augmentation des prix. D'ailleurs, l'énergéticien a gagné 939 000 nouveaux contrats d'énergie en un an. Mais l'impact de la baisse de production d'électricité liée aux problèmes de maintenance et de corrosion du parc nucléaire. Elle s'alourdit à 32 milliards d'euros contre 29 annoncés en septembre. Autre résultat de la matinée, Total Energy publie un bénéfice net en hausse de 43% à 6,6 milliards de dollars. Au troisième trimestre, les prix du gaz devraient rester élevés, de même que les marges de raffinage. Le groupe annonce une nouvelle provision de plus de 3 milliards de dollars sur la Russie. Casino publie un chiffre d'affaires en hausse de 5,4% en données comparables à 8,5 milliards d'euros. En France, son principal marché, le distributeur note une accélération de l'activité dans ses enseignes parisiennes. Le plan de désendettement du groupe se poursuit avec plus de 4 milliards d'euros de cessions signées ou sécurisées. Casino prévoit par ailleurs de céder également des parts de son activité au Brésil. Crédit Suisse empêtré dans de coûteux scandales annonce une perte de 4 milliards de francs au troisième trimestre et dévoile son plan stratégique. La banque va lancer une augmentation de capital de 4 milliards. La Banque nationale saoudienne va investir jusqu'à 1,5 milliard dans l'opération. Crédit Suisse qui compte aussi réduire ses coûts de 15% d'ici 2025. Et puis, Marianne Barba-Layani va présider l'AMF. Elle a été confirmée à ce poste ce matin par un décret présidentiel. Celle qui succède à Robert Ophèle était jusqu'à présent directrice générale de la Fédération bancaire française et de l'Association française des banques, lobby du secteur entre 2014 et 2019. Karine.
Merci Stéphanie. Stéphanie Collo pour l'Info Éco. Tout de suite, regard croisé.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Et c'est l'heure de retrouver nos invités. Il s'agit de Frédéric Rollin chez Pictet AM. Bonjour. Et de bonjour. Eric Lewin pour La Bourse au quotidien. On a pas mal de choses. On va essayer d'être synthétique, mais bien sûr, on va parler de l'actualité du jour, cette fameuse réunion, puis la déclaration, bien sûr, de Christine Lagarde juste après 14h45. Alors, la première question qui me vient, c'est est-ce que, évidemment, on se doute de la confirmation des 75 points de base, mais qu'est-ce qu'on attend réellement de cette réunion, Frédéric Rollin?
Alors oui, 75 points de base, mais là je pense que c'est quasiment un acquis. Ce qu'il faut voir, c'est que la BCE aujourd'hui est très en retard. Hein. L'inflation est montée fortement en Europe, on est approché des 10%. On a en plus une inflation sous-jacente, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, qui augmente. Et ça, contrairement à ce que beaucoup d'économistes avaient anticipé auparavant. On disait, voilà, c'est surtout la guerre en Ukraine, les céréales, l'énergie. Puis non, finalement, l'inflation a l'air de s'installer en Europe. Donc la BCE doit rattraper son retard. Elle monte de 75 points, enfin, elle devrait monter de 75 points de base, mais ce à quoi il faut s'attendre aussi, c'est probablement un discours quand même qui va aussi montrer sa détermination vis-à-vis de l'inflation. Donc je ne pense pas qu'il faut attendre une inflexion de ce côté-là. Et puis ensuite, eh bien, on va essayer de comprendre un petit peu mieux aussi comment va se passer la réduction du bilan, des liquidités très très généreuses qui ont été apportées au marché. Là, on devrait s'attendre à ce que les TLTRO, donc ces fameux prêts avantageux faits aux banques, eh bien, changent un petit peu de conditions, puisqu'aujourd'hui on a des banques qui peuvent emprunter à des taux très très bas, voire négatifs, et puis replacer cet argent à la BCE aujourd'hui à des taux positifs. Ça, évidemment, les conditions vont devoir changer. Sinon, c'est des apports de liquidités qui n'ont pas vocation à faire baisser l'inflation, bien au contraire. Donc, ça sera ces trois choses qu'il faudra regarder.
Eric Lewin, c'est pas plutôt en termes de discours, en termes de rhétorique, où on l'attend la BCE, mais aussi est-ce qu'on l'attend pas autour d'une communication claire au niveau de sa politique à venir, ainsi que la réduction du bilan de l'institution?
Ouais, moi je pense que ça va être plutôt un non-event, dans la mesure où tout le monde sait qu'elle va faire 75 points de base. On est tous en train de s'exciter avec 75 points de base, mais comme le disait Frédéric, on a quand même 10% d'inflation en Europe. Franchement, passer à 1,50 sur les taux courts, il n'y a rien de scandaleux, et même si on était à 2,5 l'an prochain, compte tenu de l'inflation, parce que l'inflation, on avait le sentiment que c'était simplement dû au prix du pétrole, au prix du gaz. La grande problématique, c'est qu'on a une inflation par les services. Il y a eu récemment une étude de la BCE, on nous dit que dans les services, la demande est très forte et il y a de l'inflation. Donc, à mon avis, Christine Lagarde est de toute façon coincée. On se rend bien compte que l'inflation est là, que même le corps énergie, c'est-à-dire hors énergie, alimentation, on est entre 5 et 6%. Donc, mécaniquement, moi, je pense qu'elle est obligée d'avoir une tonalité assez ferme. Maintenant, c'est vrai que la grande problématique, autant aux États-Unis, on a le sentiment que l'inflation commence à baisser. On a vu notamment des prix de l'immobilier qui commencent à baisser, des ventes dans l'immobilier qui commencent à baisser, des prix des voitures d'occasion où il y a une baisse. Autant en Europe, on a le sentiment qu'on n'a pas encore atteint le pic de l'inflation. Et c'est vrai qu'il va falloir agir avec doigté. Mais moi, je pense que s'il n'y a pas d'erreur en termes de stratégie de communication, il ne devrait pas y avoir énormément d'impact sur les marchés, sauf si, parce qu'il y a une autre hypothèse dont on n'a pas parlé avec Frédéric, mais on s'est parlé hors antenne parce qu'on se connaît depuis des années, si on tapait très fort avec 100 points de base, aujourd'hui, avec le sentiment qu'on pourrait aller encore plus vite, là, ça pourrait déstabiliser les marchés, mais on n'en est pas là, attendons de voir à partir de 14h15.
Alors, ça pourrait déstabiliser les marchés, donc c'est nécessaire, mais est-ce que ce n'est pas risqué? Bien sûr, tout le monde a peur, enfin, en tout cas, on parle de récession. Parce que justement, il faut durcir ces conditions d'accès au crédit afin de freiner la demande. Et puis d'ailleurs, il y avait cette fameuse phrase du patron de la Banque fédérale d'Allemagne, Joachim Nagel, bête, qui s'est réveillé de son sommeil. On a l'impression que les banques centrales, ça y est, elles ont totalement accepté la réception.
Oui, c'est pour la BCE un exercice effectivement difficile. Elle a la pression de l'inflation, elle a la pression d'un euro quand même qui est très très faible aussi par rapport au dollar, même si ça va un petit peu mieux ces derniers jours. On est quand même une sous-évaluation de l'euro, on importe de l'inflation. Donc elle a cette pression-là, et puis de l'autre côté, elle a l'impression de devoir resserrer sa politique monétaire au moment même où assez probablement quand même l'euro est en train d'entrer en récession, et où justement il faudrait mettre en place une politique monétaire de ce point de vue-là plus accommodante. Mais je crois qu'aujourd'hui la priorité de la BCE, c'est déjà au moins de rattraper son retard, de continuer d'avoir un discours anti-inflationniste, au prix en fait d'avoir aussi des banques aujourd'hui, quand on fait des enquêtes auprès des banques, qui nous disent oui, on va du coup prêter un peu moins à partir de maintenant, et donc d'enfoncer encore plus l'économie européenne dans une situation de ralentissement voire de récession. Mais je crois qu'il n'y a pas le choix, c'est-à-dire que l'inflation est un véritable poison, c'est-à-dire que si on ne lutte pas contre l'inflation, il va y avoir des pertes de pouvoir d'achat et du coup un ralentissement économique peut-être encore plus prononcé et encore plus prolongé. Donc c'est, je dirais, d'une certaine façon un mauvais moment à passer pour la BCE et l'économie européenne, qui en plus a ce problème énergétique. Bon, alors du côté des prix du gaz, manifestement ça s'arrange, ça a fortement baissé, mais néanmoins on sent bien que l'Europe est en fragilité sur ses fournitures énergétiques encore pour longtemps, et donc la confiance ne reviendra que très doucement.
Et juste un mot, si on doit faire une comparaison sur les banques centrales, la BCE est dans une phase d'une politique monétaire ultra restrictive. C'est moins le cas dans les autres pays. L'Australie, il y a quelques semaines, avait fait une hausse des taux moins forte que prévu. Hier, on attendait 75 points de base, on attendait de hausse des taux au Canada. On a eu 50 points de base simplement. Et il y a certaines voix qui commencent aux États-Unis à se dire que certes, on aura 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed, mais qu'après, on pourrait s'orienter vers des taux à 4-4,5%, ce qui veut dire encore une hausse des 50 points de base, et on temporise, ce qui n'est pas le cas de l'Europe. Donc en fait, il y a un peu une déconnexion en termes de politique monétaire. Vous avez des banques qui vont être très restrictives, c'est la BCE, parce qu'il faut combattre cette inflation qui ne baisse pas. Et on a le sentiment Canada, Australie, États-Unis. Certes, la politique monétaire reste restrictive, mais on a peut-être atteint bientôt un espèce de palier sur les taux. Et c'est d'ailleurs pour ça, si j'en reviens au marché financier dont on n'a pas parlé, que les marchés financiers, depuis quelques jours, même si la séance d'aujourd'hui, on baissote, c'est pour ça que les marchés financiers sont assez bullish depuis quelques jours, parce qu'on se dit que finalement, peut-être que les banques centrales, notamment la Fed, seront un petit peu plus accommodantes. Et donc, si elles sont un peu plus accommodantes, eh bien, on prend du risque et on revient aussi bien sur les obligations, ce qu'on a vu avec une détente des taux longs, puisque le 10 ans américain est à 4%, que sur les actions, même si on sait que sur la tech c'est compliqué, mais ça c'est un autre débat.
Alors en effet, c'est pas la même inflation, hein, l'inflation américaine et la nôtre en zone euro. Est-ce que on pourrait dire que la BCE est de moins en moins dans les pas de la Fed?
Là, il y a une déconnexion. Là, c'est évident qu'il y a une déconnexion. La Fed a tapé beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Nous, on a franchement un peu temporisé tout ça. Il faut accélérer, au risque de quand même provoquer une récession, parce que quand on voit les chiffres pour 2023, OCDE, FMI, Allemagne, Italie seront en récession parce que le poids de l'industrie est très important. En France, on sera limite avec une faible croissance, mais c'est sûr qu'il y a une déconnexion. Et puis, attention, on va avoir un chiffre cet après-midi du PIB américain. On a eu deux trimestres de baisse de la croissance aux États-Unis. Le PIB américain est attendu quand même entre 2 et 2,5 cet après-midi. On ne parle pas de ce chiffre, mais il est important parce que c'est la première estimation du T3 du PIB aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a une décorrélation entre ces deux politiques monétaire. La Fed, à mon avis, c'est bientôt fini. Pour l'Europe, ça me paraît quand même assez compliqué. J'ai l'impression que c'est la zone quand même où c'est la plus compliquée et il faut vraiment avoir de l'agilité et du doigté, parce que les États-Unis, pour eux, ils vont combattre l'inflation, ils vont réussir. En Europe, c'est plus compliqué.
On va se dire 50 au mois de décembre, peut-être rien en janvier, et puis 25 en février. Vous êtes d'accord, Frédéric Rollin, avec cette analyse ?
Il y a une question, donc pour la BCE, ça nous semble être aujourd'hui plutôt une ligne droite au resserrement. Pour la Fed, la question se pose effectivement d'une inflexion. Il y a plusieurs éléments. Donc effectivement, on voit la Banque du Canada qui commence à infléchir. On a vu quand même les soucis que fait poser la Fed au l'ensemble des marchés. On voit des obligations Crédit Suisse, une banque systémique, un beaucoup plus gros morceau que Lehman Brothers commencer à couler. Et on voit les guilds, donc les obligations d'État anglaises qui connaissent une volatilité extraordinaire. Et là, on voit quand même la Banque Centrale d'Angleterre qui réintervient, qui, deux jours avant, nous disait « je vais réduire mon bilan », deux jours après, se dit bah, « finalement, je vais acheter des obligations pour soutenir le marché ». Donc, on sent quand même qu'à un moment donné, il y a des tensions en raison de la hausse du dollar qui fait que la Fed commence à être attentive et qu'elle veut lutter contre l'inflation, elle privilégie encore probablement la stabilité financière comme la Banque d'Angleterre l'a fait. Donc, une première raison d'un point d'inflexion, puis deuxième raison, mais ça nous paraît aujourd'hui peut-être un peu tôt, c'est pour ça que je suis un peu moins optimiste qu'Eric sur le point d'inflexion de la Fed. On a quelques signes d'inflexion de l'inflation, hein, mais ça reste encore pour nous trop timide par rapport à ce qu'attend la Banque Centrale américaine. Donc oui, on va aller vers 4,5-5, mais pour nous, c'est pas encore totalement acquis. Je pense qu'on peut y croire encore une semaine, mais attention, quand la Fed va s'exprimer, on pourrait être déçu sur ce point-là.
La semaine prochaine, d'ailleurs. Donc, si vous étiez un petit peu moins optimiste, qu'en est-il justement des marchés qui, eux, l'ont été tout le début de semaine ? Comment vous voyez justement cette flambée verte jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, nous, on a commencé à prendre une position acheteuse sur les obligations américaines. On se dit, voilà, on est un petit peu moins optimiste, mais quand même, le point d'inflexion...
Il y a un peu d'optimisme.
Voilà, il y a un peu d'optimisme. Ouais. Je dis un peu moins.
J'ai l'impression d'être le seul optimiste dans ce jardin de pessimistes.
Voilà, on est un peu optimiste, mais peut-être pas autant. Donc, on commence à acheter des obligations américaines à 10 ans, parce qu'on se dit quand même, la grosse douleur des banques centrales est probablement derrière nous. Elles vont continuer de faire pression, mais c'est un peu derrière nous. Les anticipations d'inflation à moyen terme aux États-Unis sont rentrées dans les clous. On a du taux réel sur les obligations américaines. Ça commence à devenir intéressant. Sur les marchés actions, on va rester prudent, parce que si effectivement donc des taux qui restent stables, les variations de multiples de valorisation vont se stabiliser, on attend quand même les effets du ralentissement économique et potentiellement de la récession en Europe, qui va quand même impacter les profits. Alors la saison des profits aujourd'hui est correcte, mais toutes les saisons des profits sont correctes, hein, c'est bien rare qu'on ait des profits en dessous des attentes. Attention quand même à ce que vont nous dire les sociétés sur ce qu'elles attendent dans le futur, et nous, on pense qu'on va avoir quand même des révisions à la baisse, des attentes de profit et du coup, des marchés encore un petit peu sous pression. Mais voilà, pour nous, l'essentiel quand même de la correction a été faite. Mais on a quand même encore un petit peu, probablement.
Beaucoup d'attentes en termes de publication de résultats d'entreprises. Aujourd'hui, TF1, Ubisoft, Saint-Gobain, Valeo, pour ne citer que. On va rester justement sur les recos de placement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte, Eric ? Est-ce qu'on mettrait pas l'accent sur des stratégies dividendes banque ? Alors, on a vu que le secteur IT, il a un peu souffert ces derniers temps, mais qu'est-ce que vous préconisez ?
Juste d'abord, pour parler des marchés, moi, je pense que les marchés, finalement, tiennent relativement bien avec toutes les bonnes nouvelles, toutes les mauvaises nouvelles qu'on a, c'est-à-dire les durcissements de politique monétaire. La saison des résultats, je suis assez d'accord, n'est pas catastrophique, mais il faut savoir qu'aux États-Unis notamment, les analystes, comme c'est des petits malins, ils ont révisé en baisse leurs prévisions. C'est-à-dire que grosso modo, en juin dernier, on prévoyait 11% de croissance des bénéfices et maintenant, ils sont descendus à 3%. Donc après, c'est pas difficile de faire mieux. Moi, je trouve qu'on tient bien parce que franchement, quand on voit les résultats de la tech, qui sont quand même très problématique, hein, quand on prend les Alphabet, quand on
Microsoft,
prend les Meta qui devraient perdre 20% à l'ouverture aujourd'hui, quand on prend Microsoft, on se dit que finalement les marchés tiennent bien. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde? Ben, j'ai toujours une logique de stock picker, c'est-à-dire que moi j'aime bien les valeurs non pas en fonction d'un secteur particulier mais en fonction de leurs fondamentaux propres. Moi je pense par exemple qu'une valeur comme Stellantis, si elle ne déçoit pas trop ses résultats, qui est bien positionné sur l'électrique, qui a une rentabilité de l'ordre de 14,5%, qui est proche de celle de Mercedes et qui se paye sur un PER de 3, je pense qu'on peut la mettre en portefeuille. Je trouve que Carrefour ce matin, avec une croissance quasiment de 20%, avec une bonne situation en Amérique latine,
plus là 5,26,
aussi, hein, là aussi c'est une valeur qu'on peut mettre en portefeuille. Voilà, donc j'ai une logique de shopping. Alors maintenant les marchés, c'est vrai qu'on a une très belle reprise puisqu'on vient de gagner quasiment 450 points en ligne droite. Moi j'ai le sentiment qu'on peut peut-être un petit peu se poser. Mais je ne serais pas surpris si on finissait l'année, par exemple, à moins 10 sur le CAC, et le Nasdaq qui perd moins 32 si on finissait à moins 25. Donc j'ai plutôt le sentiment que s'il n'y a pas de trop mauvaises nouvelles d'ici la fin de l'année, les marchés peuvent bien se comporter avec un euro qui devrait un petit peu remonter parce qu'on va se rendre compte qu'il y a un écart de durcissement de politique monétaire et des taux obligataires qui ne devraient pas bouger. À noter que sur l'Italie aussi, qui était un grand motif de stress, on se rend compte que Meloni va dans le sens de l'Europe. Et donc l'écart de taux entre l'Allemagne et l'Italie, qui était à 240 points de base avant les élections, est tombé à 220 points de base. Donc, moi, j'ai le sentiment, sauf, bien sûr, s'il y a la problématique Russie-Ukraine, sur laquelle on peut parler, arme atomique, mais moi, je ne suis pas géopoliticien et puis je ne suis pas dans la tête de Poutine. Il n'y a pas de raison de croire que les marchés vont se crasher d'ici la fin de l'année. Je vois plutôt une hausse, mais une hausse graduelle et assez modérée, avec peut-être une meilleure année en 2023.
Frédéric, quelques autres arbitrages. Est-ce que les financiers cotés ou la dette d'entreprise européenne sur la partie haut du rendement, hein, ça serait intéressant ?
Non, pas encore pour nous, en fait. Ralentissement économique, plus resserrement monétaire, tout ça, c'est pas très bon pour les bancaires, hein, évidemment. C'est des pressions sur les marges d'intérêt, c'est des pressions aussi sur la qualité du bilan. Nous, on va plutôt se tourner, par exemple, toujours sur le secteur de la santé, un secteur de la santé qui est très résistant, évidemment, au ralentissement économique et qui est porté par des tendances longues de l'innovation, du développement émergent. La moitié des cas de diabète aujourd'hui sont en Inde, et puis du vieillissement de la population. Et donc, secteur santé, puis aussi tout ce qui est valeur de qualité. Alors, qu'est-ce qu'une valeur de qualité ? On peut en discuter, mais voilà, des valeurs qui sont pas trop endettées aujourd'hui, donc qui vont pas payer des taux d'intérêt trop élevés à la suite de la remontée des taux. Des valeurs aussi qui ont une volatilité dans les bénéfices qui est plutôt faible, voilà, qui ont des bénéfices plutôt stables. Ces valeurs de qualité, on aurait pu se dire, avec les troubles géopolitiques qu'on a eues, elles auraient pu finalement bien performer. Hein. On aime la qualité. Et non, elles ont sous-performé. Pourquoi ? Parce qu'elles ont de la croissance. Et la croissance, ça leur permet d'avoir ces bons ratios, mais aussi, ça souffre en cas de hausse des taux. Comme on revient maintenant sur les taux américains, on se dit, peut y avoir un retour sur ces valeurs de croissance, et particulièrement les valeurs de croissance de qualité, peu endettées, avec stabilité des bénéfices, comme la santé, qui n'en ont pas encore profité.
Les pays émergents, rapidement ?
Non, moi, plutôt les small et mid-caps. Je change un peu mon fusil d'épaule. On a vu depuis quelques temps qu'il y a quand même pas mal d'opérations financières. Il y a eu des OPA, notamment sur Atari. Cette semaine, il y a la famille Guichard qui fait une OPA sur la totalité du capital de Manutan. Manutan, vous savez, qui vend de l'équipementier, notamment pour les grandes entreprises, l'équipementier professionnel. Le cours était à 66 euros. L'OPA faite par la famille est à 100 euros. On a une OPRA de la part d'un éditeur de logiciels, une offre publique de rachat de 17% du capital. De Line Data, qui est un éditeur de logiciels, le cours était à 35. L'opération se fait à 50 euros. Donc moi, j'ai le sentiment que dans le monde des small limit, qui a quand même connu une année catastrophique, puisqu'on doit être à moins 25% sur le CAC small, il y aura beaucoup, beaucoup d'opérations. Vous avez beaucoup de patrons de groupe qui ont atteint un âge canonique, qui ont envie de vendre parce qu'ils se rendent compte que tous leurs efforts ne sont pas bénéficiaires en bourse. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment que dans ce monde des small limit, 2023 devrait voir une accélération des fusions acquisitions. Il y a beaucoup de sociétés cotées encore dans l'édition de logiciels, dans les services informatiques. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'adossements. Donc moi, c'est un thème à jouer parce que c'est vrai qu'on a connu une année sur les small catastrophiques. Je vous rappelle qu'on avait 20 milliards dans les fonds small caps l'année dernière à la même heure. On n'a plus que 14 milliards et donc il va y avoir des opérations. Il faut simplement trouver les bonnes cibles.
Frédéric Rollin, vous êtes d'accord ?
Oui. Alors sur les émergents, nous on trouve que c'est peut-être encore un peu tôt. Les émergents, c'est beaucoup la Chine, hein, action chinoise. Et là, on attend quand même des clarifications du côté des institutions chinoises. On peut aller sur l'Inde éventuellement. C'est un marché qui est un peu cher, mais qui a qu'une grosse croissance structurelle. Et puis ce qu'il faut noter aussi, c'est que les banques centrales brésiliennes et mexicaines ont mis en place des politiques monétaires, je dirais plutôt restrictives, assez tôt, et du coup ont des résultats. Et donc ça peut être intéressant. Alors nous, on aimerait attendre un petit peu quand même plus de stabilisation sur le dollar et puis que ce point d'inflexion de la Fed soit confirmé, mais à ce moment-là ça peut être vraiment intéressant de revenir sur les obligations émergentes. On attend confirmation, on n'achètera pas au plus bas, mais c'est un marché quand même, enfin les économies émergentes, notamment brésiliennes et mexicaines, ont quand même montré beaucoup de vertus. Il est bientôt temps qu'elles en bénéficient aussi au niveau boursier et au niveau de leurs obligations.
Merci à tous les deux. Je rappelle que Frédéric Rollin, vous êtes chez Pictet,
il aura un malaise.
Pictet AM Asset Management, et Eric Lewin, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Dans un instant, on repartira faire un point sur La Bourse. Et n'oubliez pas, bien sûr, de nous retrouver et de pouvoir écouter toutes nos émissions en podcast sur notre site bfmbusiness.fr et sur les sites partenaires. À tout de suite.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Et non, c'est pas Cédric Decoeur, c'est Karine Dany. On passe tout de suite à notre rubrique sur le green, 11h35, et on retrouve Julie Cohen-Horton. Bonjour Julie. Et
je crois qu'il y a les traders avant.
Absolument, il y a la salle des marchés. Voilà, j'ai été perturbée par l'annonce du nom de Cédric. Non, pas du tout. On va en salle des marchés de nouveau faire un petit point, alors que le CAC et les marchés sont toujours dans le rouge. Bonjour Jean-Louis, rebonjour Jean-Louis Cussac de chez Perceval. Alors comment ça évolue depuis tout à l'heure ?
Alors là, on s'endort. Hein. Il se passe strictement rien. Le marché, depuis une heure, fait du surplace. Il a évolué sur une quinzaine de points. Il est un petit peu faible, mais rien d'extraordinaire. C'est vraiment l'attente des déclarations de la BCE. Donc cet après-midi, on est à 770 millions. Nous étions à tout à l'heure à 550. Donc vous voyez, ça n'a pas avancé beaucoup. Casino reste la vedette du jour avec un gain de 20%. À noter que la position ouverte vendeur à découvert sur Casino est très importante, hein, c'est 9,5% du capital. Il y a de fortes tensions. Pour le reste, je vous dis, vraiment pas grand-chose. J'ai l'impression que ça pourrait peut-être aller un petit peu plus bas. Mais derrière, c'est le trading algo, hein, qui reprendra le manche et la main sur ce marché, parce que là, pour l'instant, la visibilité reste de toute façon extrêmement faible. On voit pas trop les catalyseurs, ce qui pourrait même nous arriver. C'est-à-dire que on voit d'où viennent les dangers. Ils sont tous évidents, bien sûr, mais on les connaît tous. Alors qu'est-ce qui pourrait nous arriver de pire? On voit pas trop. On pourra avoir plutôt des choses positives, c'est ce que s'attend le marché. 0,75, puis peut-être l'idée que on va calmer le jeu sur les futures hausses de taux en 2023 notamment. Ça pourrait donc alimenter à court terme, normalement, une baisse des taux souverains, des taux en tout cas dans la zone euro, et puis peut-être un petit rebond des marchés. C'est ce qu'en tout cas on a pricé jusqu'à présent avec cette anticipation hein, quand même extrêmement forte dans la hausse depuis quelques jours. Donc RAS, on va rester très prudent dans l'attente de tout ce que la Banque Centrale Européenne a à nous dire. Et on voit aussi que l'eurodoll qui a bien boosté parce que aussi on a du mieux, on va dire, en Europe avec l'Italie, la Grande-Bretagne, les situations se sont bien améliorées. Eh bien, cet euro qui a bien boosté. Et là également, quel catalyseur? Qu'est-ce qui pourrait nous arriver? C'est compliqué. Donc il y a 1,02 à franchir pour être strictement acheteur. Pour l'instant, on est sur l'euro-dollar dans une zone neutre. Alors que sur le CAC 40, on est dans la zone plutôt biais haussier. Et pour ma part, je cherche à acheter sur des replis. Mais c'est vrai que à partir du début de l'après-midi, on va rester extrêmement peu actif. Et je pense que là, on va faire comme tout le monde. On va peut-être acheter un peu de call, un peu de put, éventuellement, pour jouer une direction. Mais rien, pas d'initiative forte, en tout cas de ma part, et en tout cas de la part du marché. Ça paraît assez évident ce matin.
Un petit point tout léger, 0,38% en négatif. Merci Jean-Louis Cussac de chez Perceval. Merci pour cette conviction RS, on a bien compris.
BFM Business, BFM Patrimoine, sur le green.
Allez, cette fois, c'est vraiment la rubrique de Julie Cohen-Horton sur le grill. Bonjour Julie.
Bonjour Karine.
Alors, on va parler d'investissement dans le luxe de façon raisonnable, puisqu'en fait, miser sur le luxe en tant que thème d'investissement en y adossant des considérations responsables, c'est possible. Les initiatives vertueuses en faveur de l'homme et de l'environnement se multiplient du côté des grandes maisons de luxe, on va le voir. Mais comment s'assurer de leur caractère éthique et s'agit-il d'un placement forcément plus rentable? On en parle avec vous, Julie. Comment ça, le luxe se met au vert maintenant?
Ah ben oui, alors non seulement, Karine, le luxe passe au vert, mais il poursuit cette mue à la vitesse de l'éclair. Mais juste déjà pour commencer, Karine, est-ce que vous savez ce que représente l'industrie du luxe aujourd'hui?
Dites-nous.
Alors, selon un dernier rapport, celui du cabinet de conseil Bain et Compagnie, eh bien, l'industrie du luxe, elle est aujourd'hui évaluée à 1400 milliards d'euros, tout segment confondu. Et rien que pour le marché des biens du luxe personnel, eh bien, les ventes, elles ont battu leur record d'avant pandémie en atteignant 283 milliards d'euros l'an passé. Ça correspond à une hausse d'environ 1% par rapport à 2019, donc avant la pandémie. Et il faut dire que la reprise sur le marché des biens du luxe personnel, elle a été alimentée par la consommation locale dynamique, notamment en Chine et aux États-Unis, ce qui constitue en fin de compte un double moteur pour le secteur. Et parmi les projections du cabinet Bain et Compagnie, eh bien sachez que le marché des biens de luxe, il pourrait atteindre 380 milliards d'euros d'ici 2025.
Alors ça c'est pour le marché, mais quand le luxe passe au vert, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, je vais vous donner trois exemples récents parmi de nombreuses initiatives. Premier exemple, Prada, la maison de luxe italienne, elle vient tout juste de lancer sa première ligne de joaillerie responsable en or 100% recyclé. Une collection qui reprend les codes et les motifs de ses premières lignes de mode avec au programme des cœurs, des chaînes et des serpents. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est cette inclinaison de la part de Prada à jouer la carte du responsable. La ligne, baptisée Eternal Gold, a décidé de tabler sur la transparence et la durabilité. Objectif de la manœuvre, permettre à sa clientèle de pouvoir vérifier la traçabilité de ses pièces et notamment la provenance des matériaux et des pierres utilisées dans la confection de ses bijoux. Autre maison de luxe, autre exemple, Boucheron. Alors Boucheron, Karine, élégante que vous êtes,
j'adore.
Vous connaissez probablement Boucheron, c'est l'un des joailliers phares français qui est installé Place Vendôme à Paris depuis plus d'un siècle. Il appartient aujourd'hui au groupe Kering. Le groupe qui, pour rappel, a promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Et Boucheron, qui de son côté, s'est récemment engagé à utiliser 100% d'électricité verte dans ses boutiques.
Est-ce que vous auriez encore un exemple?
Ah oui. Troisième exemple, qui pour le coup date pas du tout d'hier, c'est LVMH, le groupe français, chef de file de l'industrie mondiale du luxe, qui détient Vuitton, Givenchy, Guerlain, Céline, Kenzo, pour ne citer que ces marques où on va tous les jours, évidemment. Eh bien, il a créé, il y a tout juste 30 ans, une direction de l'environnement. Donc, très clairement, les grands industriels du luxe aujourd'hui ont pris la mesure du risque climatique. Allez, je vous donne quand même un dernier exemple. Je triche, Karine. C'est celui de Chanel. Chanel qui a inauguré son programme Mission 1, degré 5, pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans les opérations Chanel de 50% d'ici à 2030.
Est-ce qu'on peut dire que la course aux initiatives responsables a franchi un cap ?
Alors disons qu'il y a surtout un coup d'accélérateur qui a eu lieu après les accords de Paris. Il y a un virage qui a véritablement eu lieu en 2015 lors de la COP 21 avec de grands industriels qui ont été placés face aux défis de l'urgence climatique. Il faut dire que le rapport du GIEC, il est catégorique. Vous savez, le GIEC, c'est ce groupe d'experts intergouvernemental qui évalue l'état des connaissances sur l'évolution du climat, ses causes et ses impacts et qui explique que d'ici 2030, il faudra nécessairement limiter la hausse des températures à 1,5 degré pour éviter donc tout bonnement la disparition des calottes glaciaires et autres catastrophes naturelles. Bref, vous l'aurez compris, les grands industriels doivent aujourd'hui plus que jamais répondre à ces enjeux de l'industrie climatique et l'industrie du luxe, elle ne fait aucunement exception à la règle.
Sauf qu'au-delà de cette prise de conscience, Julie, il y a aussi cette volonté de la part des grands noms de luxe de préserver ces ressources.
Ah ben oui, précisément, parce que les matières premières qui sont utilisées par les acteurs du secteur, exemple le cuir, se raréfient clairement. Il y a les réglementations qui deviennent aussi de plus en plus strictes concernant notamment l'exploitation des ressources naturelles et l'élevage. Et il faut dire que beaucoup de matières premières viennent de la nature et des écosystèmes et que si les acteurs du luxe souhaitent continuer à concevoir des produits de qualité, il y a un cercle vertueux de business éthique qui doit être mis en place. Dans le détail, ça signifie très concrètement que le luxe et la mode ont aujourd'hui besoin d'opérer une mue profonde pour pérenniser leur production. Une production qui est donc dépendante des ressources naturelles et qui se doit donc d'intégrer les potentialités du développement économique durable.
Puis il faut dire que le luxe accorde beaucoup d'importance aussi à la longévité et puis à la pérennité de ses produits.
Par nature, le marché du luxe, c'est très clairement un vecteur d'élégance intemporelle, un marché qui crée des produits de qualité qui accompagnent tout au long d'une vie et qui portent ainsi en eux une sorte de durabilité implicite. L'idée, c'est de consommer mieux et moins. Et ajouter à cela le fait que le luxe s'appuie sur le respect et la noblesse de la matière et le savoir-faire d'exception. Donc rien que parce que le marché s'inscrit en tant que prescripteur de tendance, il a finalement cette obligation presque induite d'endosser un rôle de pionnier et de créer des produits plus respectueux de l'homme et de son environnement.
Bon, alors ça, c'est pour la posture, Julie, mais on est quand même sur BFM Patrimoine. On voudrait donner à nos éditeurs, à nos téléspectateurs, la possibilité de savoir comment investir dans ce fameux domaine de façon responsable.
Alors, une fois n'est pas coutume, Karine, on rappelle les règles de base, on diversifie. Alors, donc, même si effectivement l'industrie du luxe se porte comme un charme, on affiche une insolente reprise, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier comme à chaque fois. Donc, si vous êtes, comme vous, Karine, fin connaisseur des marchés et que vous investissez directement en bourse, vous n'hésitez pas, vous y allez, vous intégrez du Chanel, du Dior, du Bulgari, du Chaumet, bref, dans votre portefeuille avec modération toujours. Si vous avez un PEA, même stratégie, n'hésitez pas à échanger avec vos conseillers bancaires ou financiers pour intégrer une part de luxe dans cette poche. Le luxe qui, pour rappel, a quand même affiché sa résilience durant donc la pandémie. Et puis si vous passez par le biais d'un CGP, d'un conseiller en gestion d'actifs, et bien là encore, n'hésitez pas en fonction de votre type de gestion à intégrer un peu de luxe dans vos arbitrages de portefeuille.
Allez, une petite dernière recommandation, Julie.
Alors, disons que quand on sait, Karine, que l'une des stratégies d'investissement les plus rentables aujourd'hui, c'est celle qui consiste à investir dans un sac Birkin signé Hermès, ça vaut d'autant plus le coup de se pencher sur la question. Il y a certains modèles vintage qui sont en effet proposés à plus de 250 000 euros à la revente contre un sac qui, en entrée de gamme neuf, coûte environ 8 000 euros. Donc, Karine, Vous avez deux options en sortant de l'émission. Soit vous allez direction l'avenue Georges V à Paris pour vous délester de plusieurs mois de salaire pour vous acheter un sac Hermès. Soit vous investissez directement sur les marchés financiers ou par le biais de votre poche action. Ça sera peut-être un petit peu douloureux pour votre portefeuille d'investissement dans un premier temps. Mais dans 10 ou 20 ans, vous pourrez vous offrir un nouvel appartement en contrepartie. Et c'est peut-être ça, le véritable luxe.
Merci Julie sur le green, très très belle rubrique. Dans un instant, on se retrouve tout de suite pour questions à vos réponses. Réponses à vos questions plutôt.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Les réponses à vos questions et on retrouve Jean-François Filiatre de chez Marché Gagnant. Allez, on va attaquer tout de suite ces fameuses questions avec la première, celle d'Alain. Jean-François, est-ce qu'on est toujours vendeur d'Orpea? On l'a vu, je vous fais rire. L'action a perdu plus de 40 euros, pardon, dans le portefeuille.
Franchement,
des marchés gagnants.
Non mais il est taquin, Alain, effectivement.
Mais c'est pas sympa.
Ouais, mais cela dit, vous savez que il m'arrive d'être taquin moi aussi, donc je trouve ça plutôt bien que tout le monde joue de la même façon. On rappelle l'histoire. Donc, on a un portefeuille qui avait été à l'origine tiré au sort par Cédric, et dans le secteur de la santé, on avait tiré au sort Orpea. Donc Orpea s'était pas très bien comporté l'année passée, et puis il y a eu cette fameuse histoire du livre Les Fossoyeurs. On était donc au mois de janvier, et donc sur cette antenne, le 27 janvier, j'avais donné une recommandation de vente. Le cours était aux alentours de 40. J'avais donné une recommandation de vente à 47,99. C'était le 27 janvier, en essayant de valider un truc qu'on présente souvent dans les. Tout à l'heure, on avait Jean-Louis qui nous parlait d'analyse technique. Lorsqu'on a un beau gadin, on entend souvent dire ah, il va y avoir un rebond technique. Donc, on avait espéré le rebond technique et soyons clairs, on l'a jamais vu. Donc, ça n'a fait quasiment que baisser derrière. Donc, on a effectivement toujours notre ordre. Sachant que je fais de la bourse un peu en mode feignasse. C'est-à-dire que quand on passe un ordre de bourse, on ne passe pas un ordre de bourse avec une validité un jour, deux jours, etc. On passe un ordre de bourse sur une validité longue. Et donc, on a toujours notre ordre de bourse qui est dans les carnets avec la probabilité d'être exécuté aujourd'hui qui est proche de zéro. Alors, malgré tout, on va répondre à la blagouille d'Alain sur un certain nombre de choses en essayant de retenir des leçons. Premièrement, hier, il y a donc retour. Alors, non, à la rigueur, je vais passer à lundi matin. On nous parle toujours de la liquidité sur les marchés financiers. Eh bien, il faut savoir que sur les marchés financiers, la liquidité peut être supprimée à certains moments, et puisque la vocation de notre portefeuille est d'être pédagogique, l'un des cas sur lesquels la liquidité peut être supprimée, c'est lorsqu'il y a une suspension de cotation. Alors, la suspension de cotation peut être le fait de la société qui se dit « Ah, je vais donner une information, donc avant que je donne l'information, ben, je vais bloquer le marché », ou bien… Là, dans le cas d'Orpea, on a été dans une suspension de cotation qui a été à la demande du gendarme, l'autorité des marchés financiers, qui a dit lundi matin, alors que la semaine avait été assez chargée sur le dossier d'Orpea, puisque le titre avait beaucoup progressé la semaine précédente, le lundi matin, l'AMF avait demandé une suspension de cotation et avait demandé à la société de communiquer. Ça a pris deux jours.
Deux jours de suspension.
Donc ça veut dire que pendant deux jours, tous les actionnaires n'avaient plus de liquidité. Ils ne pouvaient plus acheter ou vendre. Et en pratique, pourquoi ça a pris deux jours? Parce que le lundi matin, Orpea s'est présenté devant le tribunal pour faire une requête, pour avoir une requête en conciliation pour gérer sa dette. Et que le tribunal a répondu le mardi dans l'après-midi. Et donc, c'est donc à partir du mercredi matin, une fois que l'information était connue du marché, qu'on a pu recommencer à coter. Donc ça, c'est la première remarque où on apprend la suspension. Deuxième remarque, qui est super importante. Depuis le début, il y a des auditeurs qui me disent « Bon, mais quand est-ce que vous le dégagez ?» Et je dis toujours un peu la chose suivante. Un portefeuille, c'est pas une somme de lignes. En fait, aujourd'hui, le portefeuille, il pèse environ 12 500 euros et la ligne d'Orpea, elle pèse 90 euros. Donc, 0,7% du total. Et quand vous avez une ligne qui pèse 0,7% du total, bah, grosso modo, quand elle progresse de 10%, ça bouleverse pas votre performance. Et quand elle baisse de 10%, ça bouleverse pas votre performance non plus. Pour preuve, hier, sur la seule journée d'hier, alors que l'action européen perd 33%, donc c'est quand même le beau gadin, mais finalement, notre portefeuille hier, il progresse de 0,48% contre le CAC qui est à 0,43%. Alors, certes, hier, on a un peu aidé puisque Eramet avait fortement progressé. Donc moi, je retire plusieurs leçons quand même de tout ça. Premièrement, si on est toujours dans la pédagogie, Orpea nous apprend une première chose, c'est qu'on peut quasiment tout perdre lorsqu'on investit sur un titre en bourse. Et là, je ne suis pas en train d'évoquer une petite valeur qui est sur Euronext Grosse, qui est sur un petit marché.
Voilà, c'est un gros acteur quand même.
Orpea, c'est un gros acteur. Donc même sur un gros acteur, on peut se dire qu'on peut passer de 100 à 0, même si aujourd'hui on est plutôt passé de 100 à 10. Donc première remarque. Deuxième remarque, à mon avis, qui est relativement importante. Et on va essayer d'ailleurs de travailler la présentation du portefeuille un peu. Quand on a regardé le sujet Orange, il y a eu toute la communauté qui nous a dit oh ben, le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet du rendement. Donc on regarde les valeurs qu'on a dans le portefeuille sur le critère du rendement. Quand on a eu l'opération où on a acheté Pernod Ricard, on a bien vu que la thématique qui était la thématique importante, c'était la thématique de la croissance et de la valorisation. Qu'est-ce que j'ai comme capacité à générer des bénéfices et qu'est-ce que je vais payer comme prêt en face? Là, on est sur un vrai sujet de dette. Et le sujet de dette, il va falloir qu'on s'en empare d'un point de vue pédagogique. Parce que les taux progresse fortement. Qu'est-ce qui est en train de se passer chez Orpea? Orpea a une dette aujourd'hui de 9,5 milliards. Et cette dette, alors, quand on regarde la dette, on regarde le montant pour savoir si c'est raisonnable, on essaie de regarder les échéances pour voir si c'est tenable ou pas, et puis on va faire un peu, là encore, de pédagogie, on va découvrir un nouveau mot. Ce mot, c'est les covenants. Les covenants, c'est quoi? C'est le fait de se dire que je vais négocier ma dette avec quelqu'un qui va me prêter de l'argent, mais cette personne qui va me prêter de l'argent va mettre des conditions. Et notamment dans les conditions, va dire je vais t'imposer un certain nombre de ratios, et si tu ne respectes pas les ratios, je vais considérer que je suis plus en risque et je vais te demander de me rembourser par anticipation. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Orpea. Alors, Orpea, en pareille situation, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de renégocier sa dette. Et en pratique, quand on renégocie sa dette, souvent, il y a des gens qui disent « Mais moi, j'avais de la dette, je suis prêt à rentrer au capital en contrepartie de ma dette en essayant de me refaire. » Donc là, on va bien dire les choses de manière très claire. Les fonds propres de Orpea, c'est aux alentours de 4 milliards. Et dans son communiqué publié l'autre jour, Orpea nous explique qu'ils sont prêts à renégocier en capital un peu plus de 4 milliards de fonds propres. Donc, dans le jargon, ça va être un effet dilutif. Ça veut dire que vous avez un capital, c'est peu ou prou votre dose de pastis. Et puis, vous allez y mettre beaucoup d'eau, etc. Et donc, les anciens actionnaires, ils vont être fortement dilués. Donc, face à ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout bête. On va supprimer notre ordre à 47,99 €, on va annuler notre ordre de bourse, on va repasser un ordre de bourse pour sortir nos 9 titres, on se prend encore une tôle ce matin, on est parmi les plus fortes baisses, on est aux alentours de 9 €, on va tenter de ne pas brader le titre, donc d'habitude on fait l'ordre bonnes affaires, mais là il y a tellement de volatilité sur la valeur qu'on ne va pas faire comme ça, donc je vous propose qu'on vende nos 9 derniers titres à 9,49 €, Et puis voilà, et on continuera à faire de la pédagogie sur ce dossier parce que franchement, ça a été une très mauvaise opération, mais d'un point de vue pédagogique, c'est une bonne occasion d'apprendre des choses.
Allez, on reste justement sur les marchés, encore une fois, avec des possibilités de placement. Avec une question d'Hugo, existe-t-il un ETF donc on rappelle ce que c'est, ça permet de répliquer justement des indices, en tout cas les performances des indices, ou un moyen d'investir dans plusieurs valeurs dans le small cap?
Alors, plusieurs sujets. Alors, il y a une grande passion.
Pour les ETF
actuellement. Absolument. Donc, on appelle ETF, tracker, grosso modo. Oui. C'est de dire, au lieu d'acheter un panier d'indices, de valeurs, vous achetez un indice. Et puis, vous avez la liquidité à tout moment où vous pouvez intervenir durant votre séance boursière. Alors, moi, je suis un peu chafouin, moi, sur les ETF. Parce que j'ai suivi les premiers il y a 20 ans, et on disait aux épargnants que c'était fait pour leur simplifier la vie. Si jamais vous allez un jour sur un moteur de recherche pour essayer de trouver un ETF, alors je peux vous dire quand vous regardez les noms, mais c'est un truc à s'arracher les cheveux parce que ça simplifie la vie de personne. Alors, sur quoi on fait des ETF ? On fait des ETF avant tout sur des marchés qui sont liquides. Parce que la caractéristique même d'un ETF, c'est d'offrir à tout moment à l'investisseur la possibilité d'acheter et de vendre durant la journée. Et c'est ce qui le différencie, par exemple, d'une SICAV indicielle, où là, vous n'avez qu'une liquidité une fois par jour avec la valeur liquidative. Donc, en pratique, je me suis livré à l'exercice, pour répondre à Hugo, d'aller sur mes sites internet, de faire mes recherches avec les bases de données, etc. De trackers sur le CAC Small. Alors, le CAC Small, on rappelle, c'est grosso modo toute la Bourse de Paris dont on a viré le SBF 120. Donc, c'est principalement des petites valeurs. Donc, de trackers là-dessus, je n'en ai pas trouvé. En revanche, j'ai un tracker, par exemple, sur le CAC Mid, notamment le Mid 60. J'ai des trackers sur les small européennes. Ben pourquoi ? Parce qu'en fait, une small française par rapport à une small européenne, c'est tout petit. Donc, je n'ai pas trouvé de produit de cette nature. Et je dis, il y a une logique qui est liée à la liquidité.
Question d'Henri aussi très intéressante, hein, d'un point de vue fiscal maintenant. Est-ce qu'il est possible de cumuler un don manuel, alors on le sait, hein, qui est relevé à 31 865 euros, donation avec abattement de 100 000 euros et donation en nue propriété d'une valeur de 100 000 euros dans une seule et même période de 15 ans?
Alors, j'avoue que je ne sais pas où il veut me mener.
Parce que là, il y a quand même plusieurs choses en même temps.
En fait, il y a deux sujets. Il y a la question traditionnelle, c'est est-ce qu'on peut cumuler le 100 000, c'est-à-dire la règle traditionnelle des donations, avec le 31 865. Et le 31 865, c'est en pratique ce qu'on appelle le don familial de somme d'argent. C'est valable uniquement si vous avez moins de 80 ans et que vous donnez, là on va considérer qu'on est dans le cadre d'un enfant, à un enfant qui est majeur. Donc cette question-là, elle est traditionnelle. Le fait qu'ils mettent deux fois 100 000, je ne comprends pas pourquoi. Donc, est-ce qu'on peut cumuler ? La réponse, c'est oui. Est-ce que si on fait cette opération, on ne paie pas d'impôts ? La réponse, c'est non.
Allez, on prend encore une dernière question d'Olivier. Vous nous conseillez de plus en plus d'investir dans des fonds obligataires à échéance, mais vous pourriez indiquer si de tels fonds sont disponibles dans des assurances vie grand public et pas uniquement en banque privée réservée à des montants d'investissement, on le sait, hein, très importants, ou via des conseillers en CGP.
Vous en avez 12 secondes pour répondre, j'imagine.
Absolument.
Donc, en pratique, rien ne l'interdit. Il faut juste avoir un assureur actif parce que ce sont des produits d'opportunité. Donc, ce n'est pas des produits qui sont structurellement dans le contrat, mais qui sont ponctuellement dans le contrat en fonction des opportunités de marché. Actuellement, il y en a.
Merci Jean-François Filiatre de Marché Gagnant pour ses réponses aux questions. On vous retrouve demain. Et tout de suite, bien sûr, c'est 60 minutes business avec Erwan Maurice. Bonjour Erwan. Bonjour. C'est quoi le programme aujourd'hui ?
On va parler bien sûr des résultats de Total qui publiaient ce matin les chiffres du troisième trimestre. On sera avec Julien Kistrebert, directeur des investissements chez Montségur Finance. Et puis c'est aussi une journée de grève nationale aujourd'hui à l'appel de la CGT. On reviendra sur les dossiers chauds comme celui des retraites. On en parlera avec Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail. Et puis on filera à Francfort où nous attend notre envoyé spécial Aude Kersulek en amont de la réunion de la BCE, Christine Lagarde, qui doit annoncer une nouvelle hausse de taux. Édition spéciale à suivre d'ailleurs en direct à partir de 14h sur BFM Business.
À suivre donc dans un instant, c'est 60 minutes business avec Erwan Maurice. Le marché, lui, pour clore cette émission de BFM Patrimoine, est toujours dans le rouge, moins 0,64 pour le CAC à 6236,15 points. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.